Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Une des images que nous gardons de l'Ancien Régime est celle de la place des ecclésiastiques auprès du pouvoir. Qui mieux que Richelieu a incarné cette place? Pourtant, à l'aube du XVIIe siècle, il reste une exception. En effet, l'âge d'or de ces prélats d'État remonte à l'époque de la Renaissance. Moins connu que le cardinal et ministre de Louis XIII, ces religieux serviteurs de l'État n'en restent pas moins importants. Ils participent surtout aux grandes mutations des monarchies, notamment françaises et anglaises. Nous sommes en effet à une époque où l'État s'affirme, de plus en plus centralisé naturellement, il assure la promotion d'une bureaucratie qui se développe et se construit en se révélant très efficace. Un jour dans l'histoire vous propose aujourd'hui de partir à la découverte de ces évêques et de ces cardinaux au service de deux maîtres, l'Église et l'État. Alors comment ces prélats d'État ont-ils pu concilier les deux charges? Mais avant tout, quelles sont leurs origines? Quelle est la nature de leur réseau d'influence? Quelle place et quel pouvoir possèdent-ils réellement? Autant de questions que nous allons poser à Cédric Michon. Cédric Michon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous présente, vous êtes normalien, agrégé, ancien pensionnaire de la Fondation Thiers, docteur en histoire moderne. Alors vous êtes spécialiste de la Renaissance. Vous avez écrit de nombreux articles, ainsi qu'un livre paru chez Milan en 2004, La Renaissance. Un deuxième livre, La peinture de la Renaissance, toujours chez le même éditeur, et vous venez de publier chez Talendier en fait un résumé de votre thèse, c'est ainsi qu'on peut qualifier ce livre, qui s'intitule « La crosse et le sceptre, les prélats d'État sous François Ier et Henri VIII », un ouvrage paru donc chez Talendier. Alors, le premier aspect, Cédric Michon, la première qualité de votre ouvrage est en fait la double étude que vous faites. Vous auriez pu vous limiter à la découverte des prélats d'État sous François Ier ou bien sous Henri VIII. Et là, vous avez pris le parti d'une étude comparative qui reste un exercice très rare, finalement, dans le grand public. Comment êtes-vous arrivé à ce choix?
Alors, en fait, j'y suis arrivé, contrairement à ce qu'on pourrait croire, par une série de renoncements. C'est-à-dire qu'au départ, mon projet était plus ambitieux encore que celui-là. Ce que je voulais faire, c'était étudier en France, en Angleterre et en Espagne, le personnage du prélat d'État, c'est-à-dire le rôle des évêques, des ecclésiastiques, des prélats en général, dans l'affirmation de l'État moderne. Et puis, Jean-Jacques Carr avait coutume de dire que la thèse était une série de renoncements, et effectivement, il m'est assez vite apparu que je ne pourrais pas, dans l'espace d'une thèse Nouveau Régime, traiter la France, l'Angleterre et l'Espagne en même temps. Par ailleurs, je comptais au départ faire porter les recherches à la fois sur le règne d'Henri VII et d'Henri VIII en Angleterre, de Louis XII et de François Ier en France, et puis des rois catholiques et de Charles Quint en Espagne. Donc une fois évacué l'Espagne, je me suis aperçu que le sujet restait trop important et que je ne pourrais pas le traiter en les 4-5 ans qui étaient impartis. Et j'ai donc choisi de me concentrer sur le règne de François Ier et d'Henri VIII. Donc tout ça pour vous dire qu'au départ, il y a une forme de renoncement parce que le sujet qui m'intéressait au départ était trop large. Alors, ceci dit, pourquoi la comparaison? La comparaison, elle est essentielle parce qu'elle nous permet, elle nous met en garde contre toute téléologie, c'est-à-dire l'idée que ce qui est devait être. Et donc, en comparant la France et l'Angleterre, j'examinais deux systèmes et je pouvais comprendre de manière plus précise les logiques à l'œuvre. Quel est le processus qui a amené en France et en Angleterre, les prélats a joué un rôle tout à fait essentiel. Alors, ce sera peut-être l'objet d'une question ultérieure, mais je peux dire d'entrée de jeu que si les prélats jouent dans la France et l'Angleterre de la Renaissance un rôle tout à fait essentiel et tout à fait comparable, les raisons qui ont amené ces prélats à jouer ce rôle tout à fait essentiel et tout à fait comparable ne sont pas du tout les mêmes. C'est l'intérêt de la comparaison.
Alors, nous allons bien évidemment y revenir, mais je voudrais quand même rester sur l'idée que vous auriez souhaité aller en Espagne, finalement. On suppose que, finalement, les raisons que vous exposez françaises et les raisons anglaises qui sont bien différentes, et les résultats qui sont bien différents dans l'évolution, nous allons le voir, de la bureaucratie et de l'État, eh bien, vous auriez pu avoir, j'allais dire, une troisième voie qui était une voie espagnole.
Il y aurait sans doute une troisième voie qui serait une voie espagnole. Alors, je serais assez prudent parce que l'histoire de l'Espagne de l'époque m'est bien moins connue que l'histoire de la France et d'Angleterre. Mais l'Espagne, par exemple, a un héritage qui est assez différent, notamment au niveau des ecclésiastiques, qui ont eu à gérer une situation originale, qui est la situation de la présence arabe dans la péninsule. Et donc, on a, notamment de la part de certains prélats, comme l'archevêque de Tolède, une puissance politique et presque militaire qui n'a aucun équivalent dans la France et l'Angleterre de la Renaissance. Donc je ne veux pas trop m'avancer sur un sujet que je ne maîtrise pas, mais il serait effectivement très intéressant qu'un historien de l'Espagne donne la version espagnole du travail que j'ai fait pour la France et l'Angleterre, et on y apprendrait certainement des choses tout à fait intéressantes qui éclaireraient indirectement les réalités françaises et anglaises.
Alors c'est un appel aux étudiants, puisque vous travaillez en université, l'université du Maine, et on ne répétera jamais assez que étudier l'histoire suppose la connaissance des langues étrangères.
Exactement.
Également.
Tout à fait. Sur même un étudiant qui travaillera sur la France sera pénalisé, hein, il faut le dire clairement, s'il ne maîtrise pas l'anglais, au moins l'anglais. Maintenant, je pense qu'en dehors de l'intérêt de maîtriser une langue étrangère et au moins l'anglais pour l'étude de l'histoire de France, le fait de se frotter à des historiographies, à des traditions nationales différentes, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant pour le métier de l'historien. Donc effectivement, on n'encouragera jamais suffisamment les étudiants à travailler les langues étrangères, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'italien ou des langues plus originales, enfin plus lointaines de nous, qui leur seront extrêmement utiles et qui enrichiront leur pensée et leur manière de faire de l'histoire.
Alors venons-en au sujet et peut-être à une définition, à une tentative de définition de ce qu'est l'État à cette époque. Est-ce qu'on peut parler finalement à propos de ces prélats? D'abord, combien étaient-ils? Étaient-ils si importants? Et cette importance peut-être nous amènerait à qualifier cet état de monarchie religieuse?
Alors, je ne pense pas que l'importance des prélats d'État justifie l'appellation de monarchie religieuse. Si on veut parler de monarchie religieuse, et c'est une expression qui peut éventuellement avoir un sens, on s'appuierait davantage sur le fait qu'on a affaire à des monarchies de droit divin, à des monarchies qui s'appuient sur la religion catholique et sur un droit religieux tout à fait essentiel. Mais je dirais que ce n'était pas là le cœur de mon propos. Moi, mon propos, il est parti au départ d'une constatation un petit peu plus tardive, c'est quand j'ai commencé mon travail à l'université, en maîtrise, j'ai travaillé sur Jean de Montluc, qui était évêque de Valence et qui est un conseiller très important de Catherine de Médicis. Et en travaillant sur ce Jean de Montluc, ce prélat conseiller de Catherine de Médicis, je me suis aperçu qu'il y avait dans la France des guerres de religion énormément de prélats qui occupaient des postes de responsabilité très importantes au cœur de l'État et qui étaient présents dans de multiples secteurs. Et au départ, ce qui m'intéressait, c'était la dimension diplomatique de ces prélats. Et effectivement, on dispose de quelques travaux depuis la fin du 19e siècle centrés sur une figure originale qui est la figure de l'évêque diplomate. Donc ces évêques diplomates, je dirais que l'appellation fait un peu rêver parce que par la dimension d'évêque, on a un personnage important, un personnage riche qui est donc en contact souvent avec les artistes, etc. Par la diplomatie, bon, on a un petit peu d'évasion. On a des évêques diplomates qui vont en Pologne, qui vont en Italie, qui vont en Turquie, etc. Donc la figure de l'évêque diplomate est une figure assez séduisante, mais qu'on n'avait jamais véritablement creusée. Et donc au départ, j'étais parti sur l'idée de travailler sur ces évêques diplomates. Et puis je me suis très rapidement rendu compte que l'appellation d'évêque diplomate n'était absolument pas satisfaisante, parce qu'elle réduisait des hommes très actifs dans l'État à un seul secteur d'activité. Et on n'a pas d'évêque diplomate, ça n'existe pas, en ce sens qu'on n'a pas des évêques qui consacrent l'essentiel de leur activité dans la diplomatie. Ces évêques diplomates sont aussi des conseillers. Ce sont également souvent des administrateurs provinciaux. Ils jouent souvent un rôle aussi dans le prélèvement fiscal.
Il y a une extraordinaire polyvalence.
C'est exactement ça l'idée à retenir. C'est la polyvalence de ces prélats au service du politique dans la France de la Renaissance. Et je me suis aperçu donc que l'appellation d'évêque diplomate n'était pas pertinente, qu'elle ne renvoyait pas à une réalité existante. Et donc, j'ai cherché à trouver un autre nom pour les qualifier. Et c'est là que m'est venue l'expression de prélat d'État, dont je précise que ce n'est pas une expression consacrée. Hein. On parle de noblesse d'épée, on parle de noblesse de robe dans les textes depuis très longtemps. L'expression de prélat d'État n'est pas une expression consacrée. C'est une expression que j'ai créée, que j'ai forgée pour désigner cette réalité qui m'intéressait. Et ensuite, j'ai un petit peu migré vers le début du XVIe siècle parce que je me suis aperçu que ces prélats d'État étaient encore plus nombreux et encore plus importants au cœur de l'État dans la première moitié du XVIe siècle. Et d'entrée de jeu, j'ai voulu faire une étude comparative et je vous ai expliqué les raisons tout à l'heure, qui sont des raisons très pratiques, très pragmatiques, mais c'est aussi comme ça qu'on fait l'histoire, pour lesquelles j'ai dû renoncer à l'Espagne et même resserrer un petit peu le segment chronologique que j'étudiais.
Avant de voir peut-être leur réseau, ce que vous appelez à un moment la Cambridge Connection, je souhaiterais peut-être voir les origines. Quelle est l'origine de ces prélats d'État ? Est-ce une origine provinciale ? De quelle famille sont-ils issus ?
Alors, ils viennent d'origines très différentes. Et là,
Que l'on se place en France ou en Angleterre.
Exactement. Il y a une vraie différence. Alors peut-être avant de répondre à cette question, je voudrais répondre à une autre question que vous m'avez posée tout à l'heure en filigrane et que j'ai laissé de côté, qui est la place de ces prélats dans l'État. Parce qu'effectivement, travailler sur les prélats d'État, créer, forger un concept comme celui de prélats d'État, n'a de sens que si la réalité est là. Et là, la réponse, on ne peut pas faire l'économie d'une approche chiffrée. Combien sont les prélats d'État et quelle est la proportion qu'ils occupent dans les différents secteurs de l'État. Et de ce point de vue-là, les chiffres sont très clairs. On a une trentaine de prélats d'État dans la France de François Ier, entre 1515 et 1547, disons première moitié du XVIe siècle. Et dans l'Angleterre d'Henri VIII, première moitié du XVIe siècle, on en a une trentaine également. En fonction des secteurs d'activité, on s'aperçoit que les prélats constituent quasiment 50% des diplomates de François Ier et d'Henri VIII. Je pourrais revenir en détail sur la diplomatie si ça vous intéresse. Donc 50%, pour dire les choses simplement, sont des prélats dans la diplomatie. On a à peu près un tiers des membres du Conseil. Donc le Conseil du Roi, c'est cette institution centrale qui aide le roi à gouverner. À peu près un tiers des conseillers de François Ier et un tiers des conseillers d'Henri VIII sont des prélats. Et puis on a dans différents domaines, notamment le prélèvement fiscal, les prélats qui sont une sorte de carte de réserve, de carte d'appoint. Lorsque le roi a un besoin pressant d'argent, eh bien, il va avoir recours à des agents fiscaux exceptionnels qui sont les prélats d'État. Et puis dans l'administration régionale, dans un contexte où les régions ne sont pas toujours bien tenues, même si le pouvoir royal est fort, les prélats jouent un rôle très important. Je vais vous donner deux, trois exemples. L'Angleterre, la frontière de l'Angleterre avec le Pays de Galles, est administrée par un conseil qui s'appelle le Council of the Marches of Wales, le Conseil des Marches du Pays de Galles. Sur l'ensemble de la période, à la tête de ce conseil, le président est un évêque. Le Council in the North, donc le conseil du Nord, qui administre la frontière anglo-écossaise, est administré presque sur l'ensemble du règne par un évêque. Et en France, les évêques constituent peut-être 10% des gouverneurs ou des lieutenants de gouverneurs de province, qui sont l'institution qui administre les provinces, mais ils sont toujours placés à des postes clés. Par exemple, en 1536, grande invasion, guerre entre François Ier et Charles Quint, le lieutenant du gouverneur qui chargeait de la dépense de Paris, c'est Jean du Bellay, évêque de Paris. Et dans le sud-est, à Lyon, qui est une place centrale, c'est François de Tournon, archevêque de Bourges. Donc on voit, quel que soit le secteur, un rôle très important de ces prélats qui jouent donc dans les rouages centraux de l'État un rôle tout à fait essentiel.
Une petite pause, nous nous retrouvons dans un instant.
La bibliophilie est à l'honneur sur Canal Académie. En compagnie de notre bibliologue Bertrand Gallimard Flavigny, vous découvrirez des ouvrages et manuscrits rares présentés avec esprit dans l'émission Au fil des pages. Le bibliologue, une rubrique de Canal Académie, à écouter et télécharger sur canalacademie.com.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Cédric Michon, historien, auteur du livre « La crosse et le sceptre, les prélats d'État sous François Ier et Henri VIII », un ouvrage paru chez Talendier. Alors nous avons défini, nous avons quantifié ces prélats d'État en essayant de comprendre leur charge et leur emplacement. Mais quelle est l'origine de ces prélats, que ce soit en France ou en Angleterre, leur origine sociale et géographique?
Alors, l'origine sociale est très différente de part et d'autre de la Manche. Ça, c'est quelque chose de très important à souligner. On a de multiples cas de figure, mais on peut retenir deux idées générales. En France, les prélats sont issus de la noblesse, de la petite et moyenne noblesse. Beaucoup sont issus de ce qu'on pourrait appeler la gentilhommerie moyenne. Donc, ce sont des membres du deuxième ordre. Ce sont des nobles. Indiscutablement. En Angleterre, l'origine des prélats d'État est beaucoup plus modeste. Ce sont très souvent des prélats issus de la gentry. Alors, la gentry est une classe sociale dans l'Angleterre qui, notamment du XVIe siècle, il est très difficile à définir. On pourrait consacrer 3 émissions sur ce que c'est que la gentry, mais malgré, je ferai peut-être hurler certains spécialistes, mais malgré tout ce qu'on peut dire, la gentry au début du XVIe siècle en Angleterre est une forme de petite noblesse. C'est un peu réducteur de dire ça, j'en ai bien conscience, mais on n'a pas beaucoup de temps pour la définir. Donc c'est une forme de petite noblesse, mais vraiment de petite noblesse. Donc ces prélats d'État anglais sont issus de la gentry ou alors de la bourgeoisie. Si on veut comparer, donner 2 exemples pour que les choses soient claires, on a 2 prélats d'État très comparables dans la France et l'Angleterre au niveau de leur influence au conseil, de leur polyvalence, etc., qui sont Stephen Gardiner, qui est évêque de Winchester, et Jean du Bellay, qui est évêque de Paris. Jean du Bellay est issu d'une famille qui est possessionnée dans le Vendômois, une famille de la gentilhommerie moyenne qui est au service d'abord des ducs d'Anjou, puis qui passe progressivement au service des rois de France, là où Stephen Gardiner, donc son équivalent anglais, est fils d'un marchand de draps d'une petite ville qui s'appelle Bury St. Edmunds. Donc on voit 2 prélats qui occupent la même fonction à la cour, les mêmes fonctions au conseil, qui ont la même polyvalence, qui jouent un rôle important dans la diplomatie, dans les affaires religieuses, etc. etc. Et donc l'un est un fils de bourgeois et l'autre est un fils de gentilhomme des provinces françaises. Alors maintenant, sur la dimension géographique de votre question, ils viennent d'un peu partout. C'est-à-dire que les prélats d'État français viennent de toutes les régions du royaume de France et les prélats d'État anglais viennent de toutes les régions du royaume d'Angleterre. Là, il n'y a pas de spécificité géographique.
Alors, il y a une spécificité dans la formation. Dès le début de votre ouvrage, vous les présentez soit comme des théologiens, soit comme des juristes, soit les deux, c'est bien cela ?
Oui, alors c'est... Oui.
Alors, quel est le cursus pour devenir prélat, tout simplement ?
Alors là encore, la différence est très nette entre la France et l'Angleterre. Les prélats d'État français n'entrent pas tellement au service du roi par leur formation, ou je dirais qu'ils ne poussent pas leur formation jusqu'où ils pourraient le faire. La formation, le maximum de degrés qu'on peut obtenir à l'université, c'est un doctorat à cette époque-là. Donc les prélats d'État français, il y en a presque aucun qui soit docteur, et ceux qui sont docteurs ne sont pas les plus importants des prélats d'État. En Angleterre, à l'inverse, la dimension technicienne du prélat d'État est tout à fait essentielle, et l'ensemble des prélats d'État anglais du règne d'Henri VIII sont tous docteurs. Alors, ils sont soit docteurs en théologie, soit docteurs en droit. Disons-le d'emblée, la majorité sont des docteurs en droit. Contrairement à une idée qu'on pourrait se faire, qui est que lorsqu'on est évêque, on est théologien, la majorité des évêques anglais et français n'ont pas une formation à l'université de théologie, mais ils ont une formation de juriste. Donc, tous reçoivent une formation universitaire, quasiment tous. Les Anglais, beaucoup plus poussés, cette formation universitaire, que les Français. Et l'ensemble de ces prélats, c'est essentiellement une formation de juriste qu'ils suivent.
Alors, on devient prélat d'État, et vous montrez bien que ces personnages, et on rejoint au fond un peu ce que vous disiez au début, qui est un terme que vous qualifiez de réducteur, de diplomate, ce sont des hommes de réseau. Ils doivent monter un réseau, ce sont même parfois des mécènes.
Tout à fait. Alors, là, en fait, il y a beaucoup de questions dans votre question. On peut voir 2 logiques, 2 processus différents à l'œuvre dans l'entrée des prélats d'État au service du roi. Dans le cas français, les prélats d'État sont des héritiers, en fait, et ils bénéficient du réseau de leur famille. Donc, un prélat d'État est naturellement amené à entrer en contact avec le roi, avec ses ministres. Parce que son père, son oncle, ses cousins, ses frères aînés, etc. sont présents au cœur de l'État. Donc le réseau dont ils vont bénéficier et qu'ils vont éventuellement ensuite faire fructifier, c'est un réseau qui est un réseau nobiliaire traditionnel. Les Anglais, eux, on pourrait les qualifier de parvenus lorsqu'ils ont réussi à la cour, parce qu'ils ne peuvent pas bénéficier d'un réseau familial qui n'existe pas à la cour. Vous pensez bien que même un riche marchand de draps de Bury St. Edmunds n'a pas ses entrées à la cour ou dans le conseil d'Henri VIII. Donc les Anglais sont dépourvus en fait de ces réseaux traditionnels, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on découvre qu'ils sont obligés de substituer à ces réseaux de solidarité familiale nobiliaire traditionnelle qui existent en Angleterre chez les nobles d'épée, ils sont obligés de substituer à ces réseaux, un autre système de solidarité, et qui est en fait un système de solidarité universitaire. Et c'est ça qui m'a amené à parler de la Cambridge Connection. Parce qu'en analysant les parcours de ces prélats d'État anglais sous le règne d'Henri VIII, je me suis aperçu qu'une bonne part d'entre eux s'étaient tous rencontrés sur les bancs de l'université de Cambridge. Soit où ils enseignaient comme professeurs, soit où ils étaient étudiants. Et j'ai ainsi établi une sorte de généalogie de la Cambridge Connection sous le règne d'Henri VIII, et où j'ai montré comment les uns et les autres se soutenaient. Et une fois qu'ils étaient dans la place, grâce à la protection d'un ancien de Cambridge, eh ben, ils faisaient venir soit des fois leurs professeurs, quand ils avaient réussi plus rapidement à la cour que leurs professeurs, soit de manière plus classique, les étudiants à côté desquels ils s'étaient assis sur les bancs de Cambridge. Donc on voit deux processus très différents, deux origines sociales très différentes, qui se traduisent par deux processus d'entrée au service du roi très différents. Mais dans les deux cas, des solidarités qui sont des solidarités assez fortes, et qui voient s'affronter donc d'un côté, par exemple, la Cambridge Connection en Angleterre, et de l'autre côté, eh bien, la noblesse traditionnelle qui voit d'un assez mauvais œil ces techniciens, ces juristes venus de nulle part s'imposer et parfois les déloger des places qu'ils occupaient dans l'entourage d'Henri VIII. Dans le cas français, c'est quelque chose de plus traditionnel, c'est des affrontements de clientèle nobiliaire où le prélat d'État français, ben, il a presque les mêmes armes que le noble français traditionnel qui n'est pas d'église.
Mais justement, on retrouve cette notion de solidarité même à la mort du prélat. Vous dites que c'est une élite tout simplement stérile, c'est-à-dire qu'en Angleterre, on ne perpétue pas non pas le souvenir, mais la charge ne va pas être transmise, évidemment, parce qu'ils n'ont pas d'enfants, ce sont des religieux. En revanche, en France, on peut en faire bénéficier son neveu ou bien des oncles.
Exactement. La situation, là encore, est assez différente, et là encore, ça pourrait être un sujet d'émission, qui est la gestion des diocèses et des bénéfices ecclésiastiques par le pouvoir central, parce que c'est quelque chose de très important, de très intéressant pour le roi, d'être bien maître de qui il nomme à quel bénéfice. Il y a en France la pesanteur de l'héritage qui fait que traditionnellement, dans de nombreuses régions, il y a des bénéfices qui sont des chasses gardées pour certaines familles. Et donc c'est vrai qu'on trouve des prélats d'État qui parviennent, enfin, ou des familles de prélats d'État qui parviennent à la mort de l'un des leurs de conserver au sein de la famille l'évêché. C'est le cas, par exemple, à Paris, avec la famille du Bellay. Mais on pourrait multiplier des exemples de cette nature. Dans le cas anglais, ces prélats d'État qui ne bénéficient pas, encore une fois, de ce soutien de ces clans familiaux, eh bien, lorsqu'ils meurent, le choix de leur successeur est entre les mains du souverain à 100%. Ils n'ont absolument aucun moyen d'influencer, avant leur mort, je dirais, le souverain sur qui il va nommer à leur suite. Effectivement, là, c'est encore une différence entre les deux, entre la France et l'Angleterre.
Alors, venons-en à la nature même, au fond, de leur charge. Vous expliquez, vous écrivez, quantitativement, le prélat constitue la troisième voie de la formation de l'État. Que signifie cette troisième voie et quelle est au fond, vous allez me dire qu'il s'agit encore d'un sujet express d'émission, quelle est leur charge tout simplement au sein de l'État et comment peut-on la décrire? Et là encore, voit-on des différences entre la France et l'Angleterre?
Alors comment la décrire? On peut résumer, parce que c'est vrai qu'on peut faire des émissions sur tout, mais on peut aussi effectivement résumer des problèmes. Alors on peut résumer l'évolution de l'État assez rapidement. On a au Moyen-Âge un État qui est un État très largement domestique, la domesticité s'entendant ici par l'ensemble des gens qui constituent l'entourage du roi. Ce n'est pas domestique au sens d'aujourd'hui. Hein. La domesticité d'un souverain, c'est l'ensemble des nobles qui l'entourent à la cour, qui font partie de la maison du roi, etc. Donc, au Moyen-Âge, on a affaire à un État qui est très largement domestique, où le prince s'appuie sur des hommes qui sont issus des rangs de la chevalerie, pour dire les choses de manière très simple. Et puis, on va assister à une évolution qui va durer des siècles, hein, il ne s'agit pas de la raccourcir ici, qui va durer des siècles, où l'État ne va cesser de s'imposer, de se développer. Le nombre de sujets qui sont sous l'autorité du prince sont de plus en plus nombreux. L'espace qui est sous l'autorité du prince est de plus en plus important, etc. etc. Donc, l'État va être obligé de se développer et vous comprendrez qu'on ne peut pas gérer la France de Louis XIV comme on gérait le royaume du Capet, hein, évidemment. Donc, l'État va changer de nature et progressivement, il va se bureaucratiser. Il va être de plus en plus technique. Il va se mettre en place un système fiscal de plus en plus important. Donc, on a une évolution qui se passe entre le Moyen-Âge et puis l'époque moderne, qui est la mutation d'un État domestique à un État bureaucratique, d'un État qui s'appuie sur des hommes de guerre, sur des nobles, à un État qui s'appuie de plus en plus sur des techniciens. L'État que nous avons aujourd'hui la plupart des pays occidentaux.
C'est la naissance de l'État moderne.
C'est la naissance de l'État moderne. Alors, cette phase de transition entre un État domestique et un État bureaucratique, bien entendu, elle se déroule sur plusieurs siècles et bien entendu également, il y a des chevauchements. C'est-à-dire qu'il y a des moments, un long moment même, où on a affaire à un État mixte, c'est-à-dire qu'on a affaire à un État qui est encore largement domestique et qui a déjà des formes bureaucratiques ou pré-bureaucratiques, si on veut être très prudent. Donc, on a une vaste période de chevauchement de ces deux logiques, l'État domestique et l'État bureaucratique, et puis on a également des phases où on observe une accélération des mutations, c'est-à-dire où le pouvoir royal se développe un peu plus rapidement qu'il ne l'a fait avant. Et la période qui correspond en France à la, je dirais, à la fin de la guerre de Cent Ans, disons, de Charles VII jusqu'à la crise des guerres de religion, et en Angleterre, la période qui correspond au règne d'Henri VII, après la guerre des Deux Roses, au règne d'Henri VII et d'Henri VIII, en France et en Angleterre, ce sont des phases dans lesquelles on observe un processus d'accélération de cette mutation. Et donc, l'affirmation de la dimension bureaucratique de l'État s'observe à ce moment-là. Et c'est là que les prélats d'État interviennent, parce que dans une phase d'accélération du processus, le roi n'a pas à sa disposition, comme ça, qu'il attende des serviteurs techniciens. Et les prélats d'État, de ce point de vue-là, sont une carte de réserve les prélats ont une habitude de gestion financière, économique, juridique dans leur diocèse, et donc ils sont aptes très rapidement à exercer le même type de fonction au service de l'État. C'est l'une des raisons qui explique que donc le roi, dans ce processus d'accélération, dans cette phase d'accélération, va aller chercher des serviteurs tout près, là où ils se trouvent, à savoir dans l'Église.
Mais alors justement, ils sont dans l'Église. Il est écrit dans l'Évangile, je ne veux pas tomber dans la caricature, nul ne peut servir deux maîtres. Ces prélats servent de maîtres, ils servent à la fois l'État, mais ils servent à la fois l'Église, ils ont leurs devoirs dans leur diocèse. Je citais Richelieu, qui vous expliquait très bien dans votre ouvrage, et le dernier exemple de ces grands prélats d'État, mais Richelieu avait un devoir, et finalement on a tendance à n'entendre que le politique, alors qu'il avait un devoir, et il avait d'ailleurs aussi une œuvre religieuse.
Exactement, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est d'ailleurs utilisé par tous les adversaires des prélats, c'est-à-dire que lorsque vous êtes noble et que vous voyez d'un mauvais œil donc un prélat qui vous déloge de la place que vous occupiez ou qui vous fait une concurrence, vous pouvez toujours dire « Non mais qu'est-ce que le prélat fait ici ? Sa place est dans le diocèse. » Et on verra d'ailleurs que la disparition du prélat d'État, qui est une disparition assez rapide dans l'Angleterre de la seconde moitié du XVIe siècle et dans la France de l'après-guerre de religion, cette mort du prélat d'État s'explique en grande partie par un changement dans l'image que le prélat a dans la société. C'est-à-dire que là où ça ne choquait pas tellement au début du XVIe siècle qu'un prélat soit peu présent dans son diocèse, eh bien à la fin du XVIe siècle, ça choque beaucoup plus, notamment avec la mise en place et l'affirmation de la réforme catholique, la place des évêques et dans leur diocèse. Donc c'est une des raisons qui expliquera la mort du prélat d'État. Alors, c'est pas une raison qui... Enfin, c'est pas une... cette idée que l'évêque a sa place dans son diocèse plus qu'à la cour. On va le trouver dans la littérature, mais visiblement, ça ne gêne personne véritablement, ça. Alors, il y a une question dans ce que vous disiez, c'est est-ce qu'il n'y a pas une, effectivement, une concurrence de loyauté de la part de l'évêque entre... Alors, une concurrence qu'on pourrait envisager de manière double, c'est-à-dire que l'évêque est à la fois le serviteur du roi et le serviteur du pape. Mais en fait, cette concurrence, elle est triple, parce qu'il y a bien sûr le service du roi et le service du pape. Il y a aussi le service de l'Église nationale. L'Église nationale, c'est quelque chose qui existe. Le gallicanisme en France n'est pas une invention de la Renaissance.
Et à l'époque d'Henri VIII, l'Église nationale prend une importance importante.
Prend une importance tout à fait exceptionnelle. Exactement. Et alors, c'est là, en fait, qu'il y a un conflit d'intérêts. On peut répondre très clairement à la première question. Il n'y a aucune concurrence entre le service du roi et le service du pape, à l'époque que j'étudie. Au début du XVIe siècle, le destin de ces prélats, c'est un destin qui, en aucune manière, n'est romain, n'est à Rome. C'est un destin qui est national. Il est à Paris et à Londres. Donc, s'il y a un conflit entre le roi et le pape, les prélats prendront systématiquement, s'ils sont obligés de faire un choix, ils feront le choix royal sans hésiter beaucoup. En revanche, il y a manifestement, on l'observe de manière très très claire, une fidélité à l'Église nationale. Et je vais prendre, et ça en France comme en Angleterre. Et je vais prendre un exemple très, très clair, c'est le cas de Stephen Gardiner. Donc Stephen Gardiner, dont j'ai déjà parlé, qui est évêque de Winchester, c'est un homme qui fait une carrière incroyablement brillante à la cour d'Henri VIII. À peine 30 ans, il est presque le bras droit du roi, il est déjà évêque de Winchester, et il y a deux choses qui l'attendent. La chancellerie d'Angleterre, pour les responsabilités politiques, et l'archevêché de Canterbury pour la dignité ecclésiastique. Et en 1531, on a un chancelier, on sait que les deux offices, enfin l'office de chancelier et puis le siège de Canterbury vont rapidement être disponibles, donc on sait que c'est Gardiner qui va les avoir dans l'année qui suit quasiment. Et qu'est-ce que fait Stephen Gardiner, qui est donc vraiment une incarnation du jeune loup aux dents longues et qui, encore une fois, est extrêmement brillant? C'est qu'il va briser net sa carrière parce qu'en 1531, le pouvoir royal, je n'entre pas dans les détails, mais remet en cause un certain nombre de libertés de l'Église d'Angleterre. Et Stephen Gardiner va monter au front immédiatement. Dans la convention, la réunion des évêques anglais, il va monter au front immédiatement pour défendre les libertés de l'Église d'Angleterre. Ça ne veut pas dire que sa carrière est définitivement terminée, mais elle a subi un coup d'arrêt. Il va être ensuite renvoyé dans son diocèse, puis exilé en France dans une ambassade exil pendant 3 ans. Et donc, clairement, on voit que s'il y avait une personne qui n'avait pas intérêt à protester contre cette attaque des libertés de l'Église d'Angleterre, c'était Gardiner, et il l'a quand même fait. Donc on voit bien qu'il y a un conflit potentiel d'intérêts, un conflit de loyauté, de fidélité. Il n'est pas entre la fidélité au roi et au pape, il est entre la fidélité au roi et à l'institution de l'Église nationale. Et le cas en Angleterre comme en France.
Alors justement, quel est précisément... et peut-être plus précisément la marge de manœuvre de ces hommes dans leurs tâches au quotidien? C'est ce que nous allons voir, Cédric Michon, après cette deuxième pause.
Installez-vous à la table de Canal Academy. Découvrez nos émissions en compagnie d'Hervé Tisse avec sa cuisine moléculaire. Pierre Feillet vous livre 5 scénarios possibles pour votre assiette en 2030. Jean-Marie Bourg pèse le pour et le contre des oméga 3. Et Robert Anton vous aide à y voir plus clair sur des compléments alimentaires. Sans oublier la chronique gastronomique de Jean Vito. Des émissions en libre écoute et téléchargement sur Canal Academy.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée au prélat d'État. Je reçois le professeur Cédric Michon, auteur du livre « La crosse et le sceptre, les prélats d'État sous François Ier et Henri VIII », un ouvrage paru chez Talendier. Nous avons laissé nos auditeurs sur ce personnage, Gardiner, et sa situation, j'allais dire, entre, au fond, le trône et l'autel. Quelle est leur marge de manœuvre au quotidien? Est-ce que ces hommes peuvent prendre des libertés vis-à-vis du pouvoir?
Ça dépend des sujets. Il y a Dans l'action diplomatique, par exemple, avec les difficultés des communications de l'époque, très souvent, ils sont obligés de prendre des marges de manœuvre, de prendre des initiatives, mais je dirais qu'ils ne prêtent pas à conséquence. Au niveau maintenant d'une des questions très importantes, qui est la question religieuse. Je vous rappelle qu'on est dans cette période-là, à partir de 1517 au moins, et donc encore plus dans la décennie 1520 et la décennie 1530-1540, on est dans une période où l'on assiste à la naissance et à l'affirmation de la réforme. Et évidemment, les évêques sont au premier plan dans le choix qu'ils doivent faire entre la fidélité à l'Église catholique, éventuellement le désir de passer à la réforme, ou alors l'idée qui est assez répandue, d'essayer de voir dans quelle mesure la réforme n'est pas nécessaire pour l'Église catholique, et dans quelle mesure il n'y a pas des choses à prendre dans ce que proposent les protestants. Donc essayer de réunifier cette tunique sans couture du Christ qui vient d'être déchirée par la réforme. Ils ont une certaine marge de manœuvre, mais ils sont extrêmement prudents, surtout en Angleterre. Et donc, dans les négociations avec des théologiens, et notamment des théologiens et des représentants des princes protestants allemands, on voit certains prélats qui jouent leur carte, c'est-à-dire qu'ils vont parfois aller plus loin que le roi ou moins loin que le roi dans les négociations, mais ils le font toujours extrêmement prudemment. C'est quand même le roi qui a la main, et le risque de déplaire au roi dans un régime qui est quand même un régime où la faveur est essentielle, c'est un risque de tout perdre, de perdre toute influence politique. Donc, pour répondre précisément à votre question, ils ont une marge de manœuvre qui est assez réduite.
Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous montrez l'évolution en fait, du pouvoir royal, parce que nous avons parlé tout à l'heure de chevalerie, depuis la féodalité, les choses évoluent. Et par exemple, dans le cadre des relais régionaux que constituent ces prélats, vous écrivez « Le souverain entend exploiter la puissance temporelle de l'évêque, puis la vider de sa substance ». Cette évolution est particulière à l'Angleterre ?
Alors, c'est particulier à l'Angleterre, et c'est même particulier, là en l'occurrence, le passage que vous citez, c'est particulier à l'évêché de Durham. Donc Durham, qui est une ville du nord de l'Angleterre, c'est un des diocèses frontières entre l'Angleterre et l'Écosse, et l'évêché de Durham est en fait un comté palatin. Donc c'est une circonscription administrative qui, dans l'Angleterre du Moyen-Âge et du début de l'époque moderne, une circonscription administrative dans laquelle l'évêque a, au sein de son diocèse, à peu près les mêmes pouvoirs que le roi d'Angleterre a dans le reste du royaume. Donc, dans une zone tampon, une zone frontalière comme celle-là, il est effectivement de l'intérêt du roi, Henri VIII, d'utiliser les relais régionaux que confère à l'évêque de Durham sa puissance régional. Et donc d'instrumentaliser en fait une sorte de puissant féodal religieux qui pourra bien le servir. Et qu'est-ce que fait Henri VIII ? Eh bien, il va réactiver le Conseil du Nord, qui était un petit peu endormi depuis quelques années. Il va faire de Cuthbert Tunstall, qui est évêque de Durham, donc Cuthbert Tunstall, évêque de Durham, il va le nommer président du Conseil du Nord. Et il va progressivement vider de sa substance, passer une série de réformes qui vont faire que l'évêque de Durham va perdre tous ses pouvoirs en tant que comte palatin. Mais ça ne se voit pas quand il le fait, puisque cet évêque qui est en train de perdre tous ses pouvoirs les récupère en tant que président du Conseil du Nord. Et donc, il va dévitaliser le comté palatin de Durham, Henri VIII. Il va donner tous ses pouvoirs au président du Conseil du Nord. Sur le moment, ça ne se voit pas parce que ce président est en même temps évêque. Et une fois que le comté palatin de Durham aura perdu ses pouvoirs, il va remplacer Cuthbert Tunstall, qui était président du Conseil du Nord, par un autre évêque qui n'est pas possessionné dans la région. Donc c'est pour ça que j'ai parlé d'une vampirisation du comté palatin de Durham, parce que donc le roi va s'emparer de tout son pouvoir, et d'une manière très indolore, encore une fois, en conservant le même individu.
Mais alors, est-ce que ce mouvement ne peut pas être généralisé, que cela soit pour la France et pour l'Angleterre, au mouvement de centralisation, tout simplement, du royaume ?
Si, c'est une forme dans le grand débat qu'on trouve dans l'historiographie anglo-saxonne entre le centre et la périphérie, c'est un des nombreux exemples qui montrent une affirmation du pouvoir central sur les périphéries. Si, c'est exactement dans ce sens-là que ça va.
Alors, il y a vraiment cette différence, cette distinction entre ce qu'on appellerait une bureaucratie anglaise et puis qu'on qualifierait d'une courtisanerie française sur le rôle des prélats et des rouages tout simplement de l'État. Est-ce que dans la disparition de ces prélats, ces natures vont-elles influencer sur cette disparition des États? Des prélats, pardon.
Donc, dans quelle mesure la disparition des prélats d'État va influencer la nature de l'État? Je répondrai là de manière assez simple. C'est que les prélats d'État, ils sont utilisés par le pouvoir royal quand le pouvoir royal a besoin d'eux. À partir du moment où le pouvoir royal n'a plus besoin des prélats d'État, il congédie les prélats d'État. En simplifiant un petit peu, c'est comme ça que ça se passe. Dans un contexte qui est un contexte bien précis, moi j'observe sur la période qui m'intéresse une inflation du nombre de prélats d'État à partir de 1525 en France, donc à partir de la défaite de Pavie, qui a troué les rangs des courtisans et des conseillers de François Ier. Donc le roi se trouve en manque de conseillers opérationnel. Et donc, c'est là qu'apparaissent un certain nombre de prélats, comme Jean du Bellay, Jean de Lorraine, Gabriel de Gramont, François de Tournon. C'est là que les prélats d'État commencent à occuper des missions de premier rang. Et puis, en Angleterre, c'est au moment où Henri VIII veut annuler son mariage avec Catherine d'Aragon. Il a besoin de juristes et de quelques théologiens pour justifier l'annulation du mariage, parce que ça ne s'annule pas comme ça, un mariage. Et donc, c'est là que les prélats vont jouer un rôle important dans l'État en Angleterre à partir de la fin de la décennie 1520, 1527, 1528 à peu près. Donc, on voit qu'on a, de manière conjoncturelle, une inflation du nombre des prélats dans l'entourage royal. À partir du moment où l'État aura un petit peu comblé son retard, on va observer une spécialisation des différents rouages, une spécialisation des agents de l'État, une augmentation des effectifs, c'est-à-dire que sur 20-30 ans, on peut former des serviteurs, alors qu'on ne peut pas du jour au lendemain. Et donc, à partir du moment où l'État va se spécialiser, que le nombre des laïcs va augmenter parmi les agents de l'État, eh bien, naturellement, les prélats d'État vont disparaître. Mmh. Surtout si vous y ajoutez le changement de l'image du prélat, qu'on voit mieux dans son diocèse, en France, ou dans le contexte de la réforme anglicane sous Élisabeth, qui renvoie les évêques à leur diocèse.
Alors vous avez une expression, vous dites, ce sont des serviteurs bon marché, en parlant des prélats d'État. Est-ce à dire que dans cette mutation que vous présentez, qui sonne la fin des prélats, est-ce à dire que l'État y met tout simplement les moyens ? Où les formations sont différentes, où tout simplement il y a un mouvement social qui permet à la laïcisation de s'opérer.
Alors la laïcisation, c'est un phénomène qu'on n'observe pas au XVIe siècle. La laïcisation des services centraux de l'État embryonnaire, c'est quelque chose qui est quasiment terminé en fait. Donc pour tout ce qui est l'aspect le plus bureaucratique, encore le plus central de l'administration, qui est terminé dans la France et l'Angleterre quasiment à la fin du XIVe, début du XVe siècle. Là, il y a des travaux qui ont été faits et notamment synthétisés par Bernard Guenet qui montrent ça très bien. Mais ce phénomène en fait va s'amplifier par la suite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les prélats vont être appelés en renfort en nombre significatif, ils vont ensuite disparaître quand la machine étatique, l'expression est un peu anachronique, mais sera en mesure de fournir suffisamment d'agents laïcs. Quand je disais que ce sont des serviteurs bon marché, c'est que ces prélats d'État n'occupent pas des fonctions secondaires. Ils occupent des fonctions importantes. Avec 30 personnes, vous n'allez pas peupler une administration. Donc, ils sont toujours dans des fonctions clés. Et les gens qui sont dans des fonctions clés sont des gens qui sont bien payés, qui coûtent cher à l'État. Ils coûtent cher en pension directe, en récompense, en cadeau de vaisselle, en cadeau de terre, etc. Eh bien, les prélats, on les récompense avec des bénéfices. Donc ça ne coûte rien au trésor royal. Lorsque François Ier va récompenser un conseiller laïc comme le connétable de Montmorency ou l'amiral d'Annebault en leur donnant des terres, même si c'est des terres qui ont été confisquées éventuellement à des félons, des terres confisquées qu'on donne à un serviteur, c'est des terres qu'on ne garde pas pour soi. Alors que les prélats d'État, eux, on va les récompenser soit en leur donnant un deuxième bénéfice, soit en leur reprenant le premier, mais leur donnant un second qui est plus rémunérateur, etc. etc. Donc il y a une forme d'économie de la part du côté de l'État dans le recrutement des prélats. Et ça s'observe également au niveau de la formation. C'est-à-dire qu'un serviteur laïque, c'est un serviteur qui généralement est arrivé à la cour très jeune et qui a exercé des fonctions de page, etc., dans les différentes maisons, la maison du roi, la maison éventuellement de la reine, etc. Donc il a été entretenu par l'État avant de devenir opérationnel comme diplomate, comme conseiller, comme chef de guerre, etc. Le prélat, sa formation, elle n'a rien coûté à l'État parce qu'il ne sera pas apparu dans les comptes de la maison royale. Il aura fait une formation dans le cadre d'un diocèse, d'une famille, d'une maison d'évêché, etc.
Et alors, vous avez présenté l'Angleterre, les quid de la France ?
C'est assez comparable,
c'est
en fait.
Assez comparable ?
C'est assez comparable, oui, tout à fait.
Alors, nous arrivons peu à peu au terme de cette émission. Il y a véritablement ce mouvement de spécialisation, c'est-à-dire que ces personnages polymorphes, hein, c'est une expression que vous utilisez, ou en tous les cas polyvalents, disparaissent totalement.
Alors, ils disparaissent totalement assez rapidement, encore une fois, pour les raisons que j'ai évoquées. Ils disparaissent dans l'Angleterre du règne d'Élisabeth, quasiment donc, dès la seconde moitié du XVIe siècle. Et en France, ils disparaissent très rapidement après les guerres de religion. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas véritablement considérer que les Richelieu, Mazarin, Fleury, etc. soient les dernières incarnations du prélat d'État parce que leur logique est différente. Dans ce qui explique la présence des prélats d'État en France et en Angleterre entre la fin du XVe et le milieu du XVIe siècle, ce qui explique leur présence dans l'État, c'est que le roi va chercher dans le vivier des clercs des serviteurs utiles. Et certains vont faire des carrières éclatantes et vont devenir prélats d'État, alors que d'autres vont occuper des fonctions beaucoup moins importantes. Richelieu n'est pas représentatif, c'est pas un clerc qui a été pêché dans un vivier par le pouvoir royal et qui a particulièrement bien réussi. Richelieu est représentatif de Richelieu, de lui-même. Là où les prélats les plus puissants de l'Angleterre et de la France du siècle précédent, Jean du Bellay, François de Tournon, Jean de Lorraine, ou pour l'Angleterre, Stephen Gardiner, Cuthbert Tunstall ou Thomas Wolsey, sont des prélats qui, encore une fois, sont représentatifs, sont issus d'un vivier très, très actif, très grouillant et qui ont réussi après en avoir été retirés.
Ça, en fait, les prélats viennent d'une stratégie de l'État.
Alors, c'est très difficile à dire. Ça dépend ce qu'on entend par stratégie. Il y a un courant qui réfléchit aux origines de l'État moderne, très actif, qui a apporté énormément de choses extrêmement utiles, qui a clarifié beaucoup de choses. Mais il faut savoir si on considère qu'on a une stratégie de construction de l'État moderne sur plusieurs siècles, ça paraît peu vraisemblable. En tout cas, on ne peut pas le démontrer. Je pense que plus que de stratégie, il faut voir les choses sous l'angle du pragmatisme. L'État moderne, l'État de la France et d'Angleterre de la Renaissance, est un État qui est avant toute chose pragmatique, qui va chercher les serviteurs où ils sont quand il en a besoin, qui va les congédier lorsqu'il en a plus besoin. Et la disparition des prélats d'État peut, pour moi, être interprété pas comme un changement de stratégie, mais comme une nouvelle mue de l'État. Un État qui est en perpétuelle mutation et qui réagit au coup par coup. Il n'a pas une vision à long terme qui serait répartie sur 5 siècles et qui dirait, voilà, là, il va y avoir le moment prélat d'État. Non, les prélats d'État apparaissent à un moment donné dans deux contextes que j'espère avoir montré clairement, sociaux très différents, sociopolitiques très différents dans la France et l'Angleterre. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, en France comme en Angleterre, on a besoin de ces prélats d'État pour des raisons différentes.
Oui, vous parlez de bureaucratisation, de professionnalisation, de spécialisation, aussi d'une amélioration de la couverture administrative et territoriale. Nous sommes vraiment dans ce mouvement de centralisation. Mais au fond, c'est vous résumer en disant qu'il y a un véritable bouleversement dans la nature des relations entre le monarque et ses serviteurs. Nous sommes très loin du monarque et des chevaliers.
C'est ça, exactement. Encore une fois, on a besoin de gens de plus en plus compétents, de plus en plus techniciens. Et donc, c'est la nature de l'État qui change. Ce que je disais, c'est le passage d'un État domestique à un État bureaucratique. C'est ça qui est très intéressant dans la période de la Renaissance, c'est qu'on a cette mutation, on a donc une monarchie mixte et on a concrètement une cohabitation de serviteurs d'origine très différente. Et l'un des éléments qui est assez intéressant à voir, c'est comment cette cohabitation ne se passe pas toujours bien et qu'on a des affrontements assez violents entre ces hommes d'épée et ces techniciens du droit et des finances et ces prélats d'État également, dont la venue n'est pas toujours bien reçue.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Cédric Michon, d'être venu au micro de Canal Académie pour nous parler donc de votre ouvrage « La crosse et le sceptre, les prélats d'État sous François Ier et Henri VIII », un ouvrage que vous pouvez trouver chez l'éditeur Talendier. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.